Bonjour. Alors, ce que vous entendez maintenant est une prédication que j'ai partagée le dimanche 2 avril 2017 à l'Assemblée chrétienne de Marguerite, où j'avais parlé du ministère féminin. Et en fait, l'enregistrement n'a pas fonctionné. L'ordinateur était capricieux. Et comme vous avez été un certain nombre à me demander une piste audio, je me suis dit pourquoi pas faire un podcast. C'est toujours mieux que rien. Voilà, cela dit, ce sera peut-être pas l'odeur, la couleur d'une prédication, puisque je ne serai pas inspiré de vos regards, mais j'espère que ce sera tout aussi bien. Et en avril, j'avais donc prêché sur le passage que vous trouverez en 1 Timothée 2, les versets 11 à 15, un passage aussi connu que polémique. Je crois que rien qu'en lisant les premiers mots, vous allez tout de suite reconnaître ce dont je vais parler. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Quand j'ai partagé ce message en avril, je rappelais que j'étais en train de lire un livre qui parle des prédications dans la période médiévale et plus précisément de l'humour dans les prédications dans l'époque médiévale, comme quoi c'était aussi des blagueurs à l'époque. Et c'est un livre qui s'intitule L'humour en chair, chair avec un E, l'humour en chair, le rire dans l'église médiévale. Et ce qui était terrible en lisant ça, c'est de voir que, il y avait une approche misogyne de la foi chrétienne et que la femme, voilà, c'était un peu la tête de Turc. Le bouc émissaire, le statut de la femme à l'époque, c'était vraiment terrible. C'était l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il ne faut pas être. Et Ève incarnait quasiment le péché ou la complaisance avec le péché, ayant été séduite par le serpent, voilà, comme en reprenant ce type de passage que j'ai lu. Et elle avait parfois même une plus mauvaise place que les démons eux-mêmes. Et évidemment, un des drames majeurs de l'histoire, c'était de mépriser la condition féminine, en faisant croire, ça c'était le comble, que c'était la perspective biblique. Et pourtant, dans la Bible, on trouve des femmes épanouies, on trouve des femmes clairement pas cantonnées à leur fourneau. Je vais prendre deux exemples. La prophétesse Déborah, une prophétesse reconnue, qui a une influence politique, sociale, internationale. Et puis il y a encore la femme vertueuse décrite en Proverbe 31, une femme qui va faire du commerce, qui va acheter et vendre des terrains, elle fait de l'humanitaire, elle travaille des matériaux. C'est une femme très active dans la vie de la cité, qui est la gloire de son mari, qui lui ne la brime pas mais va la laisser s'exprimer dans différentes activités. Et ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que ce proverbe a été écrit par un homme mais sous la dictée d'une femme. C'est une mère qui écrit à son fils pour lui dire comment trouver une femme selon Dieu. Et ça aussi, c'est un message pour nous. Dieu laisse le soin dans sa parole à une femme de décrire comment doit se comporter une femme selon Dieu. Voilà, je trouve que c'est un message dans le sens où c'est un soin qui ne laisse pas aux hommes, parce que peut-être les hommes auront du mal à décrire un petit peu tous ces aspects-là de la condition féminine, de la féminité par rapport à la spiritualité. En tout cas, cette femme de Proverbe 31, c'est une femme qui ne vit pas dans l'ombre de son mari, mais qui s'épanouit dans ses affaires, dans la vie de la cité, etc. Et c'est vraiment l'inverse de ce qu'on voit ensuite, de façon générale, dans l'histoire de l'Église. Je ne dis pas que c'était comme ça dans toutes les communautés et partout, mais globalement, dans les écrits qu'on a, c'est vrai que le statut de la femme n'était pas le meilleur. Et l'histoire montrera, et c'est toute la question de quel statut, que faire d'une femme vertueuse dans l'Église. Si une femme réussit, si une femme a de la prestance, si elle est féminine, si elle est spirituelle, voilà, que fait-on, que fait l'Église d'une femme vertueuse? Et c'est vrai que certains hommes ont pu se sentir menacés. Et auront tendance soit d'un côté à vouloir brimer ce type de femme qui va prendre de la place, soit la mettre dehors. Et dans notre passage, Paul semblerait s'inscrire dans cette perspective. Je dis bien semblerait. Parce qu'il dit la femme, elle ne peut pas prêcher, elle ne peut pas enseigner, elle doit demeurer dans le silence, ce qui est quand même dur. Et d'ailleurs, si on lit ce passage rapidement, on pourrait presque croire que la femme doit se taire parce que Ève a été séduite. Je ne sais pas si ce qui est. Si c'est ressorti à la lecture, mais voilà, comme si c'était une punition, comme si c'était une conséquence de la chute. Et vous allez me dire, c'est pas juste, parce qu'Adam, lui aussi, il est coupable de péché, il n'a pas levé le petit doigt, et par ailleurs, il n'a même pas eu besoin d'être séduit, il a juste courageusement accusé sa femme et l'a jetée en pâture au jugement, Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve tout au long des Écritures. Depuis Abraham, quand le pharaon le menace, il va prostituer sa femme. Isaac fera la même chose, Lot fera la même chose. Et aussi le Lévite dans le livre des Juges aussi, qui quand il est dans une mauvaise situation, voilà, il y a vraiment cette idée de l'homme pécheur qui se range derrière sa femme et qui l'utilise comme un bouclier. Là où Christ est le modèle masculin par excellence, où il s'interpose entre son épouse, l'Église et l'ennemi, et il va mourir pour elle. En tout cas, voilà, parenthèse fermée, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, ce qui est intéressant de noter, c'est que Ève ici semblerait perdre des points. Car Adam a été créé le premier, Ève ensuite, un point en moins. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est Ève, deux points en moins. Et j'ajoute que la femme qui n'enfante pas ne trouvera pas le salut, trois points en moins. D'où cette fin un peu énigmatique, le stage de récupération de points, où Paul semblerait dire que si la femme enfante, elle serait sauvée. Et si ce verset est énigmatique, il sera pour autant la clé pour bien comprendre notre passage. Alors, l'interprétation classique, vous la connaissez, probablement. L'interprétation classique de ce passage consiste à dire que l'interdiction de prêcher ou d'enseigner que Paul fait envers les femmes de l'église d'Éphèse, en tout cas pour ce contexte, c'est une interdiction qui est permanente et c'est une interdiction qui est universelle. Parce qu'au verset 13, en parlant d'Adam et Ève, Paul revient à la création en disant qu'il y avait un ordre créationnel et que s'il interdit à la femme d'enseigner ou de prêcher ou s'il lui dit de rester en silence, c'est parce que c'est l'ordre créationnel qui veut ça. Comme Adam a été créé le premier, et qu'en plus, c'est Ève qui a été séduite, alors là, forcément, ça renforce cet ordre à la base où c'est l'homme qui va quelque part dominer la femme, qui elle va rester dans le silence. Donc l'argument classique, c'est de dire, en fait, Paul décrit l'ordre créationnel, dès le départ c'était comme ça, et il n'y a rien à faire, quoi. Ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours. Sauf que on a plusieurs problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'on ne pense pas que le fait d'enfanter apporte le salut. Le deuxième problème, c'est que Paul dira par exemple à l'église de Corinthe que les femmes peuvent prier, parler, prophétiser dans l'église, c'est-à-dire quand même parler de la part de Dieu à l'assemblée, ce qui n'est pas rien. Et puis on trouvera aussi dans l'entourage de Paul des personnes, notamment des femmes, qui ont contribué à son enseignement et à son ministère. Ce qui nous contraint à dire que de deux choses l'une, soit Paul il a besoin d'aller au Club Med pour prendre quelques vacances parce qu'il se contredit, soit son interdiction est forcément liée à un contexte particulier. Parce qu'il ne peut pas dire aux Corinthiens que la femme peut prophétiser et parler dans l'Église, et il ne peut pas dire aux Éphésiens qu'elles ne peuvent pas le faire. Donc il y a bien un contexte qui explique cela. C'est ce que je crois et c'est ce que j'aimerais démontrer par ce partage. Et à ce sujet, il y a deux choses qu'il faut regarder dans cette même épître de Timothée. La première, c'est que Paul écrit parce qu'il y a des problèmes dans l'Église. Paul écrit parce qu'il y a des choses dans l'église d'Éphèse qui ne vont pas. Et je vais lire juste au chapitre 4 de cette épître, les trois premiers versets, 1 Timothée 4, 1 à 3, où Paul va décrire le problème qui est dans cette église. Et une fois qu'on comprend le problème, on comprend pourquoi il va aller vers certains interdits. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc là, je fais une parenthèse, donc il y a les faux docteurs, hein, donc c'est-à-dire des faux enseignants qui sont venus à l'église. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, ces faux docteurs, verset 3, prescrivant de ne pas se marier, donc ils ont dit, il ne faut pas se marier, il faut rester célibataire, et ils continuent en disant, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc ces faux docteurs, ils sont venus dans l'église d'Éphèse, hein, c'est là où il y a Timothée. Et ils ont dit, on interdit le mariage et on revient à des interdits alimentaires, probablement liés au judaïsme avec le pur et l'impur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'ils disent qu'ils prescrivaient de ne pas se marier. Parce qu'au chapitre 5 de cette même épître, Paul va régler un problème sous-jacent dans l'Église, c'est enfin, un problème, c'est une mauvaise gestion des veuves dans cette assemblée. Il y a plein de veuves dans cette église d'Éphèse et elles sont mal gérées par l'église. Et donc Paul va donner des directives pour savoir comment s'en occuper. Et il dira notamment, je souhaite donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles soient de bonnes maîtresses de maison, de façon à donner, à ne pas donner à l'adversaire aucune occasion de médire. En fait, ce qu'il est en train de dire là, c'est en fait ces veuves qui sont célibataires, moi je suis favorable à ce qu'elles se marient, à ce qu'elles se remarient. Sauf que bah, les faux docteurs, ils ont dit que non, en fait, on prescrit de ne pas se marier. Donc, si vous voulez, ce problème, il est bien lié à un contexte, c'est la situation des veuves dans l'église d'Éphèse. Et le problème, c'est que ces faux docteurs, en disant qu'il ne fallait pas se marier, ont probablement influencé ces veuves qui se glorifient d'être célibataires. Et en disant que, ben en fait, elles sont supérieures aux autres puisqu'elles ne sont pas mariées. Voilà, puisqu'elles ont tout leur temps pour Dieu, puisqu'elles sont, toute leur vie est consacrée pour Dieu, et elles ont fait du célibat, à cause de ces faux docteurs, une position supérieure au mariage. Et c'est une fausse doctrine qui a influencé les veuves. C'est pour ça que Paul dira, ah non, non, vous pouvez vous remarier, il n'y a pas de souci pour ça. Et une fois qu'on a dit ça, rappelez-vous, Paul il dit que il revient à l'ordre créationnel, Adam et Ève, Adam créé le premier, Ève ensuite, et la femme qui a été séduite, mais qui sera sauvée si elle enfante. Et en disant cela, on a tout compris. Peut-être que c'est pas clair pour vous, mais je vais vous expliquer le parallèle que Paul fait, qui est très simple en fait. Si vous voulez, il prend une image pour dire, et ayez l'image d'un parallèle dans votre tête, parce que de la même façon que Ève a été séduite par le serpent. Eh bien, ces femmes, ces veuves, ont été séduites par des faux docteurs. De la même façon que Ève a été séduite par le serpent, ces veuves ont été influencées par les faux docteurs qui prescrivaient de ne pas se marier. C'est pour ça que Paul dira, ah non, vous pouvez vous remarier. D'accord? Donc c'est le premier parallèle. Et comme ces femmes ont été séduites par ces faux enseignements, et qu'elles avaient de l'influence dans l'église d'Éphèse, dans ce cas-là, Paul dit, non, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et le deuxième parallèle qu'on prend, casser cette doctrine de célibat. Alors Paul, il ne dit pas que le célibat c'est mieux ou moins bien, il dit juste que c'est différent du mariage. Hein. Toujours en guise d'illustration, au verset 15, on a ce verset énigmatique qui dit « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, hein, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » Là encore, on a un rapport, un parallèle avec l'ordre créationnel d'Adam et Ève, parce que Paul est en train de dire la femme qui enfante sera sauvée, c'est-à-dire que la femme qui enfante est une femme qui est mariée, elle n'est pas célibataire. Et il est en train de faire le parallèle en disant, de la même façon que ces veuves peuvent se remarier, et bien de la même façon, Ève a donné naissance, elle est devenue mère, et ce qui a permis à la descendance de faire naître le Christ. En gros, si vous prônez que le célibat c'est meilleur que le mariage, alors vous méprisez une chose qui est fondamentale, c'est que le Christ est venu d'une femme qui a enfanté, et donc qui n'était pas célibataire. Vous voyez, donc il est juste en train d'utiliser l'histoire d'Adam et Ève pour expliquer, pour rétablir une situation problématique. Et il dit à ces femmes, si vous prenez le célibat, vous oubliez que la descendance de la femme a permis de faire naître le Christ. Et ça, c'est une référence à lorsque Dieu dit au serpent dans le jardin, la descendance de la femme viendra te vaincre, en fait, hein, quelque part. Hein, c'est en Genèse 3,15, il me semble. Voilà, c'est la descendance de la femme. Voilà, la femme va donner des naissances pour amener la mécanique du salut jusqu'à son terme, et c'est parce que une femme a donné naissance que le Christ est venu et qu'on a été sauvé. Donc vous ne pouvez pas faire du célibat une situation spirituelle supérieure au mariage. Donc vous voyez le double parallèle que Paul fait par rapport au contexte de l'épître. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre une épître avec un passage hors contexte. Paul, il explique au chapitre 4, ah oui, ils disent, les faux docteurs disent qu'il ne faut pas se marier, et au chapitre 5, ah oui, mais les veuves, du coup, il leur dit qu'elles pourront se remarier. Et juste avant, il fait un parallèle en disant, Ève a été séduite comme ces femmes ont été séduites, mais attention, Ève a enfanté pour amener le Christ, et c'est pour ça que ces femmes peuvent se marier et enfanter aussi. Tout ça pour dire que Paul est juste en train d'illustrer une mauvaise doctrine avec un parallèle à la Genèse. Mais cet interdit est bien lié au contexte de l'église d'Éphèse. Cet interdit n'est ni universel ni permanent. Et preuve en est que Paul dira par exemple aux Corinthiens que la femme peut parler et prophétiser. Ce qui veut bien dire qu'il ne peut pas dire à l'église d'Éphèse que les femmes doivent rester dans le silence et aux Corinthiens qu'elles peuvent parler. Hein, c'est bien contextuel. Et pour juste rééquilibrer les choses avec plus de justice, si Paul dit ici que c'est Ève qui a été séduite, il dira par exemple en Romains 5, verset 14, que la faute revient bien à Adam. J'aimerais juste citer ce passage pour équilibrer un peu les choses. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que Paul, il n'est pas en train de dire c'est de la faute d'Adam ou c'est de la faute de Ève. Il est juste en train de dire c'est l'humanité qui a fauté. Et quand il se sert un coup de l'exemple d'Adam ou un coup de l'exemple d'Ève, c'est juste pour expliquer, pour illustrer un problème. Mais ce n'est certainement pas pour mépriser d'un côté la condition féminine ou la condition masculine. Ce n'est pas son propos. Il est juste en train d'expliquer à chaque fois un aspect particulier par rapport à un problème donné. Donc voilà, j'espère que ces parallèles ont été clairs. Et par rapport à tout ça, j'aimerais donner deux applications concrètes. La première application, c'est que la prédication ou l'enseignement dans l'Église n'est pas quelque chose de masculin. La prédication n'est pas un exercice masculin. Et je crois que s'il n'y a majoritairement que des hommes qui prêchent, qu'on le veuille ou non, consciemment ou pas, on en fera une pratique masculine, car on n'aura pas de modèle féminin. Et s'il n'y a pas de modèle féminin pour la prédication, alors il sera implicite que prêcher est un truc de mec. Et la conséquence, c'est qu'une femme se sent obligée de prêcher comme un homme. Et moi, c'est ce que j'ai vu avec certaines personnes qui voulaient prêcher. Alors, pas dans le contexte de Marguerite, mais ailleurs. J'ai parlé avec des femmes qui voulaient censer, ou qui s'étaient lancées dans la prédication et qui le verbalisaient très clairement en disant qu'il fallait prouver sa place. Et voire, il fallait presque faire mieux que les hommes. Parce que ça ne semblait pas forcément normal. Et je me souviens à l'église de Marguerite, la première fois que, à l'époque, c'était Chantal qui avait prêché, eh ben Joël avait dit que ça ne doit pas être un événement, dans le sens où si ça devient un événement, ça veut dire que c'est pas normal ou qu'on rentre pas dans une normalité. Et je crois qu'il avait raison de dire ça. Et voilà, c'est pour ça que je voulais le citer dans ça. Non, c'est pas un événement dans le sens où c'est normal qu'une femme prêche. C'est pour ça que je rappelle dans ce message que si 99% du temps la prédication est masculine, alors ce sera le seul modèle retenu, car le seul modèle proposé, et nous allons passer à côté de toute la dimension féminine de la vie d'église. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'intérêt de la prédication d'une femme, c'est qu'elle prêche comme une femme. Car dans la féminité, on aura quelque chose qu'un homme ne pourra jamais apporter. Donc l'intérêt de la prédication d'une femme, c'est notamment sa féminité dans le message. Comme pour un homme, il faut qu'il prêche de façon masculine. Et ça, c'est très important. Combien de fois dans les Écritures, Dieu se décrit comme une femme, avec toute la dimension de la maternité spirituelle, avec ce soi, avec cette approche féminine, parce que Dieu est esprit, il n'est pas homme ou femme, Dieu est esprit. Et des fois, il va se servir d'une dimension masculine, et des fois, il va faire appel à une dimension féminine. Et ça, c'est ce qu'on doit retrouver dans la richesse de l'Église. C'est pour ça que je dis que s'il n'y a que des hommes qui prêchent, on va passer à côté de au moins 50% de la richesse de l'Église. Et ça suppose que des femmes se lèvent pour prendre cette place. Alors, je suis très reconnaissant parce que dans notre église, il y a beaucoup de femmes qui se lèvent pour différentes activités qui sont, voilà, qui sont capitales pour la vie de l'église. Mais pour la prédication en particulier, j'ai envie de dire, c'est super qu'il y ait des femmes qui se soient levées, mais j'ai envie de dire encore plus, parce que là, il y a une parole qui est prêchée, une parole qui donne des perspectives pour l'église, avec cette féminité, et que rien ne pourra remplacer. Ce qui m'amène à mon second point, cet enseignement ou cette prédication féminine est capitale, parce que nous trouvons là toute la dimension de la mère spirituelle. Une mère spirituelle qui apporte une parole enseignée, une parole prêchée, une parole prophétique sur l'Église, pour l'Église, que seules des mères spirituelles pourront apporter. Parce que la vérité, c'est que si les mères ne prennent pas leur place, les pères auront alors échoué à être des pères. L'Église a la responsabilité de voir des femmes vertueuses se lever. Parce que c'est essentiel dans cette dimension de féminité, de mère spirituelle que même Dieu apporte déjà dans l'Ancien Testament, quand il est décrit comme un père qui apporte ce soin-là. Et même l'apôtre Paul dira à certains moments qu'il a enfanté, il prend tout un registre lié à la féminité, mais pour exprimer des réalités spirituelles qui sont tellement importantes et pertinentes pour la vie de l'Église. Il y a un théologien qui disait que. En fait, il y a vraiment cette responsabilité-là dans l'Église de voir des femmes vertueuses se lever, parce que le beau-père de tout homme, c'est Dieu. Et donc, chaque homme épouse une princesse et le roi de nous demander, est-ce que tu as permis à ta femme, est-ce que tu as permis à ma fille d'exploiter tout son potentiel pleinement pour me glorifier? Et en ce sens, je suis pour le pastorat féminin. Alors, je vais expliquer ce que je veux dire par là. Pas au sens classique du terme, mais je suis pour le pastorat féminin dans le sens où la femme doit apporter un réel soin pastoral dans l'Église. Et on a tellement enfermé le mot pastorat avec le mot homme, avec la dimension masculine, qu'on s'interdirait presque qu'il y ait une dimension féminine pastorale dans la vie de l'Église. Et là encore, c'est un manque énorme pour l'Église. En termes de soins pastoraux, eh ben, les hommes, il y a des choses qu'ils ne savent pas faire. Il y a des choses où on est nul pour ça, disons-le, et où les femmes vont apporter quelque chose de tellement riche, de tellement profond, dans la dimension pastorale. Et il ne faut pas enfermer le mot pastoral dans la masculinité non plus. Et là, on a tant besoin de mères spirituelles, on a tant besoin de femmes vertueuses. Parce que l'Église n'est pas une famille monoparentale. Ça, on peut le rappeler dans la rue, dans les débats, mais il faut le vivre, il faut le vivre. Et de la même façon qu'il y a des pères spirituels, il faut qu'il y ait des mères spirituelles. Et ce n'est pas un plus la mère spirituelle, c'est autant que le père spirituel, dans ce soin pastoral et dans cette parole qui va être prêchée pour l'Église, pour la vie de l'Église et pour ce qu'elle est appelée à vivre. Et j'aimerais juste terminer en honorant toutes les femmes qui se sont investies dans l'Église, dans notre Église, qui ont pris cette parole. Et qui se sont investis dans toutes les activités. Et on est vraiment très reconnaissant pour tout ce que vous avez apporté. C'est génial. Et en étudiant la Bible, je me rends compte que voilà, c'est pas juste un plus. C'est pas ce que j'avais pensé avant, mais là, je réalise encore plus que c'est toute une dimension qui manquera au moins à 50% de ce qu'on doit vivre s'il n'y a pas cette dimension de la prédication féminine et s'il n'y a pas cette dimension de la mère spirituelle qui apporte un soin à l'Église, un soin pastoral, un soin prophétique. Et encore une fois, je suis reconnaissant qu'à l'Église, des femmes se lèvent pour prendre leur place. Et j'ai juste envie de dire, de vous encourager, de dire encore plus. Voilà, j'en ai terminé.